de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 30 mai 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedulia. Tout d'abord, les titres. En Guinée, les audiences au procès des événements du 28 septembre renvoyées au 5 juin prochain. Au Sénégal, heurts entre jeunes et forces de l'ordre autour du sort de l'opposant Ousmane Sonko. En RDC, le procureur de la CPI, Karim Khan, veut plus d'efficacité dans la lutte contre les crimes de guerre. Le président américain Joe Biden dénonce une atteinte tragique aux droits humains après la promulgation de la loi anti-homosexualité en Ouganda. En Libye, 23 membres du groupe État islamique condamnés à mort. La Chine envoie dans l'espace son premier astronaute civil. Ne manquez pas notre page sport ainsi qu'à la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En Guinée, les audiences au procès des événements du 28 septembre sont renvoyées au 5 juin prochain. Les avocats ont boycotté les débats de lundi pour réclamer de meilleures conditions de travail. Notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a réagi au boycott du procès des événements du 28 septembre par les avocats. « On ne peut pas demander à l'État ce que l'État ne doit pas payer », a affirmé Charles Wright à l'issue d'une rencontre avec les magistrats ce lundi à Conakry. Les avocats constitués dans le procès des événements du 28 septembre 2009 ont suspendu leur participation au déroulement du procès du massacre des civils dans le grand stade de Conakry il y a 14 ans. Les hommes en robe noire demandent aussi une aide juridictionnelle. Il faut recadrer, réplique le ministre de la Justice. L'aide juridictionnelle, c'est pour les parties au procès, explique-t-il. Pour les avocats constitués, leur position ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est vraiment rudimentaire. Les conditions dans lesquelles nous travaillons, nos clients sont tous d'accord pour le boycott, a dit Maître Paul Yumba Kourma, avocat de Toumba Tekité, sur Fim FM, une radio privée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
De jeunes Sénégalais ont affronté à coups de pierre les forces de l'ordre lundi dans des quartiers de Dakar proches du domicile de l'opposant Ousmane Sonko, engagé depuis 2 ans dans un bras de fer avec le pouvoir et silencieux depuis qu'il a été ramené de force dans la capitale par les gendarmes dimanche. Les manifestants ont aussi brûlé des pneus sur certains axes de la capitale et dressé des barrages de fortune. Des véhicules ont été incendiés selon les médias locaux près de la maison de Matarba, chef de cabinet du président Macky Sall. Les forces de sécurité ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Monsieur Sonko est en état de séquestration selon Ousseyn Ouli, porte-parole de son parti. Le silence de l'opposant a donné lieu à un flot de spéculations sur l'éventualité d'un placement en résidence surveillée. Aucun responsable du pouvoir ne s'est exprimé sur son statut. L'annonce de la promulgation d'une nouvelle loi prévoyant de lourdes peines pour les relations homosexuelles et la promotion de l'homosexualité en Ouganda a suscité hier indignation et inquiétude auprès d'ONG, de l'UE, du Royaume-Uni, du Haut-Commissariat de l'ONU et ici à Washington de la Maison-Blanche. Pour le président américain Joe Biden, cette loi anti-homosexualité constitue une atteinte tragique aux droits humains et doit être abrogée. M. Biden évoque de possibles conséquences sur l'aide et les investissements des États-Unis en Ouganda. Le point avec Abdourahman Dia.
Le président américain a précisé avoir demandé à ses services d'étudier les conséquences de cette loi qu'il qualifie de honteuse sur tous les aspects de la coopération entre les États-Unis et l'Ouganda, notamment l'aide et les investissements, selon un communiqué. Pour le dirigeant américain, le passage de cette loi compromet les perspectives de croissance économique essentielles pour tout le pays, appelant à son retrait immédiat. Les autorités américaines étudient des mesures supplémentaires comme des sanctions d'immigration ou des restrictions d'entrée sur le territoire des États-Unis pour toute personne associée à des violations des droits de l'homme ou des faits de corruption, a ajouté le président démocrate. Le texte, qui suscite l'indignation d'organisations de défense des droits humains, prévoit de lourdes peines pour les relations homosexuelles et la promotion de l'homosexualité.
Le procureur de la CPI, Cour pénale internationale, en visite en République démocratique du Congo, a prôné hier à Bukavu, au sud Kivu, une autre manière de travailler. Selon Karim Khan, il faut une action collective, un partenariat plus fort entre le gouvernement, les gouverneurs de province, la société civile, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, afin de démontrer une volonté commune de mettre fin aux crimes de guerre. C'est en RDC que la CPI, en fonction depuis 2002, a lancé en 2004 sa première enquête sur des crimes commis en Ituri, dans le nord-est du pays. 3 condamnations définitives ont été prononcées depuis par la Cour pour des faits commis en RDC. Mais une évidence s'impose à nous. Les viols n'ont pas cessé, les crimes n'ont pas cessé, a ajouté M. Khan, après avoir rencontré dans son hôpital de Bukavu le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018 pour son action en faveur des femmes victimes de viols utilisées comme armes de guerre. Le procureur de la CPI, qui a également prévu de se rendre en Ituri, achèvera son séjour en RDC à Kinshasa, où il rencontrera les autorités. En Libye, le bureau du procureur annonce la condamnation à mort hier de 23 djihadistes reconnus coupables d'avoir combattu pour le groupe État islamique par un tribunal. 14 autres ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. Lionel Gahima.
Les verdicts ont été rendus par le tribunal de Misrata dans l'Est. À la lecture des verdicts, plusieurs femmes ont laissé éclater leur joie au milieu des applaudissements et des voyous, scandant « Dieu est grand et le sang des martyrs n'a pas été versé en vain ». Au total, une cinquantaine de djihadistes ont été reconnus coupables de meurtre et appartenance à une organisation terroriste. Outre les accusés condamnés à mort ou à perpétuité, 9 autres ont écopé des peines allant de 3 à 12 ans et 5 ont été acquittés selon le parquet. Placés dans le box des accusés, vêtus d'uniformes bleus, les crânes rasés et portant la barbe, les prévenus ont comparu dans une salle bondée où étaient présentes les familles des personnes tuées lors de la bataille de la libération de Sirte. De nationalité libyenne, soudanaise ou palestinienne, les accusés ont été arrêtés en décembre 2016. Au cours de leur contre-offensive, les forces locales avaient bénéficié du soutien de l'armée américaine qui avait mobilisé drones, navires de combat et avions de chasse jusqu'à la reprise de la ville.
Les combats ont continué de faire rage lundi soir au Soudan, mais les médiateurs saoudiens et américains se sont félicités de la prolongation de 5 jours d'une trêve jamais respectée, censée permettre l'acheminement d'une aide humanitaire vitale pour le pays au bord de la famine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Ukraine, au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessées dans la nuit de lundi à mardi lors d'une nouvelle attaque massive de drones russes sur Kiev, a annoncé le maire de la ville. L'Ukraine dit avoir abattu 29 drones sur 31, la plupart au-dessus de Kiev et sa région. Lundi, des missiles russes se sont abattus en plein jour sur Kiev, semant la panique dans les rues après une nouvelle nuit de bombardements. De son côté, la capitale russe a été visée ce mardi à l'aube par une rare attaque de drones. Il y a eu des dégâts mineurs sur des bâtiments, mais pas de victimes, selon le maire de Moscou. La Russie dit que 8 drones ont attaqué Moscou et tous ont été neutralisés. La Chine a envoyé ce mardi vers sa station spatiale Tiangong 3 nouveaux astronautes, dont pour la première fois en civil, avec l'ambition de renforcer ses connaissances en matière de vol habité face aux Américains et aux Russes. Une expérience précieuse pour le géant asiatique qui a affirmé lundi vouloir envoyer un Chinois sur la Lune d'ici à 2030. La Minute Éco, Chininiwa.
La Centrafrique a adopté lundi une loi réglementant la tokenisation de ses ressources naturelles et foncières en crypto-monnaie, y compris pour les étrangers. La loi fixe le cadre de l'utilisation des monnaies virtuelles Bitcoin et Sango dans le processus d'investissement, y compris par les ressortissants étrangers désireux d'investir dans les titres miniers, agraires, forestiers. Le président américain Joe Biden et le leader républicain Kevin McCarthy ont trouvé un accord de principe pour éviter un défaut de paiement des États-Unis. Les dépenses non liées à la défense resteront à peu près stables sur l'année fiscale 2024 et n'augmenteront que de 1% en 2025. L'accord conserve la hausse des dépenses consacrées à l'armée et aux anciens combattants prévues par l'administration Biden. Il prévoit par ailleurs une baisse de 10 milliards de dollars des fonds alloués aux services fiscaux pour se moderniser et renforcer les contrôles. Vendanges exceptionnelles, bouteilles haut de gamme et exportations records, l'année 2022 a été hors norme pour le marché du champagne qui s'attend toutefois à connaître quelques secousses en 2023. La prestigieuse boisson a confirmé son rebond avec 325,5 millions de bouteilles vendues en 2022, le plus haut volume en 15 ans selon le bilan annuel du Comité interprofessionnel du vin de Champagne, CIVC.
Merci Ginny. À présent, les sports avec Eric Manirakidza. En Allemagne, les règlements de compte continuent à la tête du Bayern.
Les règlements de compte se sont poursuivis lundi à la tête du Bayern au terme d'une saison très agitée. La figure historique du club Uli Hoeneß estima que le recrutement d'Oliver Kahn comme patron avait été une erreur. La grande déception tient à ce que j'ai pensé qu'avec sa seule personnalité, il pourrait remplir le rôle. Mais à la place de cela, il s'est entouré de conseillers externes qui ont contribué à répandre une atmosphère catastrophique au sein du club, a jugé Uli Hoeneß. Oliver Kahn, sous contrat jusqu'à fin 2024, a été non seulement congédié en fin de semaine dernière, mais il s'est vu interdire d'assister à la dernière journée de championnat samedi, qui a vu le Bayern remporter in extremis un 11e titre de suite, grâce à une meilleure différence de but sur Dortmund.
Mourinho veut gagner la Ligue Europa comme d'habitude.
20 ans après avoir soulevé sa première Coupe d'Europe avec le FC Porto, José Mourinho peut remporter avec l'AS Rome son 6e trophée continental en autant de finales demain mercredi contre Séville en Ligue Europa. Depuis son premier triomphe en 2003, suivi d'une première Ligue des Champions l'année suivante avec les Dragons portugais contre Monaco, le Special One assure n'avoir rien perdu de sa soif de trophée. « Ma motivation continue de grandir, ce n'est pas un problème », assurait-il la semaine dernière devant la presse, affirmant être devenu un meilleur entraîneur et une meilleure personne au fil des ans et des clubs.
Le Sud-Africain Colby quitte Toulon avant le Mondial 2023.
L'ailier sud-africain de Toulon, Cheslin Kolbe, champion du monde avec les Springboks en 2019, quitte Toulon avant la fin de son contrat en 2024 et à 3 mois du début du mondial, a annoncé lundi le club français. Le rugby club toulonnais et Cheslin Kolbe ont décidé d'un commun accord de se libérer mutuellement de leurs engagements. À l'issue de la saison 2022-2023, ceci permet à Cheslin Kolbe de s'engager pour un nouveau projet dès la saison 2023-2024, souligne le rugby club toulonnais dans un communiqué.
Eric, signalons pour terminer que Miami s'est qualifié pour la 7e finale NBA de son histoire, où l'attend Denver, après avoir brisé le rêve d'un comeback inédit de Boston en s'imposant 103-84 grâce à un certain Caleb Martin et à Jimmy Butler, la vedette de l'équipe, lors du 7e match du championnat Est, jeudi, et ça à Boston même. Denver Twitter est mené par Nikola Jokic et sa bande qui ont écarté sans ménagement les Lakers de LeBron James 4-0 à l'Ouest.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Bénin s'avance-t-il vers une régularisation des naissances? Le gouvernement béninois envisage la mise en place d'un programme de maîtrise des naissances pour faire face à la poussée démographique trop élevée. Des assises nationales sur la croissance démographique devraient même se tenir cette année. Mais la pertinence d'un tel chantier est diversement perçue tant par le citoyen lambda que par la classe politique, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Le sujet est présent dans toutes les conversations depuis que le chef de l'État béninois l'a évoqué sur une chaîne internationale. Patrice Talon avait déclaré en mars dernier qu'il faut contrôler les naissances, trouver les moyens d'inciter à la limitation des naissances. Pour lui, les présidents africains doivent agir pour limiter cette croissance de la démographie afin de contribuer au bien-être des concitoyens.
Nous sommes confrontés aujourd'hui à un drame. Le taux de croissance de la démographie est trop élevé et en décalage avec notre capacité à investir dans l'infrastructure d'éducation, de santé, de la création d'emplois. Donc, il faut impérativement contrôler ce taux de progression de la démographie, donc contrôler les naissances. Et il faut trouver les moyens d'inciter au contrôle des naissances et même de trouver des moyens coercitifs un peu pour que l'explosion qu'on observe, le taux qu'on observe ne se perdure pas. Sinon, l'Afrique se portera très mal.
La population béninoise est estimée à 12 614 058 habitants, selon le dernier recensement. Pour certains, le Bénin n'est pas encore au stade dont parle le président au point de nécessiter une limitation des naissances.
Moi, je suis contre le fait que le président a dit qu'on doit limiter le nombre de naissances par couple.
Moi, je ne suis pas pour cette option parce que les populations du Bénin ne constituent pas encore une main forte pour faire développer à elles seules le pays.
Mais pour d'autres, il est temps de promouvoir la procréation responsable et le président Patrice Talon fait bien de mettre le doigt sur un véritable problème de développement.
Moi, je pense que cette mesure est vraiment la bienvenue. Parce que, qu'on veuille ou pas, un enfant implique des responsabilités.
Un enfant, commencer la maternelle jusqu'à aller en terminale, tu vois le coup. Il faut des répétiteurs, il faut des si, il faut faire ça. À l'université également, il faut faire si, il faut faire ça. Et si tout le monde peut comprendre ce qui se passe actuellement, on peut limiter les enfants.
Bientôt des assises sur le sujet, mais pour l'islamologue Moutawakil, ce serait une véritable perte de temps.
Faisons une assise nationale, on se réconcilie, on se pardonne, on se dit la vérité. Mais les assises pour les assises en Afrique, les assises que vous préparez, alors que la conclusion est déjà tirée.
Même réflexion au sein du cadre de concertation des confessions religieuses. Pour le pasteur Michel Alopo, tant que la polygamie reste un champ ouvert, il serait utopique de parler de contrôle des naissances.
Je ne pense pas que cette proposition passera au niveau de la population béninoise. Vous savez que nous sommes africains, nous avons des us et coutumes. Le code des personnes de la famille, c'est vrai, a validé la monogamie, mais elle n'exclut pas la polygamie.
Pour la sociologue Emilia Tingui-Azalou, on ne peut limiter les naissances sans prendre en compte les pesanteurs socioculturelles.
Avoir beaucoup d'enfants est une richesse parce que dans la société traditionnelle africaine. Donc, plus il a d'enfants, plus il a la possibilité d'offrir une main-d'œuvre abondante.
Devant la polémique, le gouvernement, par le biais de son porte-parole, a réagi. Selon Wilfried Léandre Ngidji, il s'agit de procréation responsable. Pour lui, le gouvernement convoque des assises nationales pour que toutes les forces vives, toutes les composantes de la société se retrouvent et discutent d'une préoccupation majeure pour le Bénin. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, face à l'afflux de réfugiés burkinabés dans les zones nord et nord-est du pays, le Conseil national de sécurité et ses partenaires coordonnent leur stratégie d'assistance. Au cours d'une récente réunion à Ferkesé-Ougou, il a été question de réconcilier leurs interventions en matière de gestion du flux important de réfugiés burkinabés dans les zones nord du pays. Un reportage de Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
À la frontière nord de la Côte d'Ivoire, les réfugiés burkinabés sont beaucoup plus présents dans les départements de Kong et de Ouangoloudougou. Et Ferkesé-Ougou a abrité une récente réunion de coordination du Conseil national de sécurité CNS et l'ensemble des humanitaires pour fusionner leur appui en matière de prise en charge migratoire. Le ministre secrétaire exécutif du CNS, Fidèle Sarasoro.
Depuis le mois de décembre de l'année dernière, nous avons eu un afflux de réfugiés en provenance essentiellement du Burkina. Nous avons donc examiné les différents aspects liés d'abord à la coordination au niveau central, la coordination au niveau local qui sera faite par les préfets de région. Nous avons également examiné les questions d'assistance en vivre et en non-vivre et les questions liées à la situation de la protection de ces réfugiés. Mais surtout, nous avons parlé également de la question sécuritaire d'une façon générale. Nous avons d'ailleurs félicité et remercié ces populations qui ont accueilli ces populations venues du Burkina.
Les réfugiés racontent leur intégration au sein des familles locales.
Nous sommes ici, ça fait presque une année comme ça. Notre premier souci, c'est avoir la paix là où nous sommes.
Dès qu'elles sont arrivées ici, il n'y a pas de problème. En tout cas, il les a bien accueillis.
Des mouvements de population que certains habitants tiennent à relativiser.
Nos réfugiés, nous, on avait accueilli dans nos familles. C'est notre voisin, c'est notre famille. S'ils viennent, on ne peut pas les laisser dehors. Pour le moment, on n'a pas fait leur camp.
En effet, le site de transit de Nironigué devant abriter les réfugiés burkinabés est en cours d'aménagement. Bâti sur une superficie de 10 hectares et situé à 3 km de la ville de Ouangoloudougou, il a été visité par la délégation du CNS et ses partenaires. Écoutons à nouveau le ministre Fidèle Sarasoro. Il est le secrétaire exécutif du CNS.
Et on voulait s'assurer qu'avec cet afflux-là, on ne prenait pas de risque pour la population d'accueil et la population ivoirienne. Nous allons nous assurer que tous ces sites-là soient sécurisés. Et l'objectif, c'est que dès que les conditions seront réunies, que ces populations-là puissent retourner le plus rapidement possible dans leur pays. Et les partenaires se sont montrés disposés à accompagner la Côte d'Ivoire. Nous avons entrepris un recensement biométrique de ces personnes. Et aujourd'hui, nous sommes en capacité de dire que, selon le ACR, ils sont à peu près 21 000, mais il y a 10 000 qui ont été profilés et pour lesquels nous avons des références biométriques.
La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent une frontière commune longue de 584 km. Et depuis le 29 juillet 2008, les deux pays ont signé un accord de traité d'amitié et de coopération. Delphine Bobise, Abidjan, VOA, Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Togo, le couvert végétal du pays s'est fortement dégradé ces dernières décennies. Depuis 2021, le gouvernement a initié un projet de régénération des forêts avec l'ambition de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Cependant, les premières expériences de la campagne nationale de reboisement sont loin d'atteindre les objectifs visés. De Lomé, notre correspondant Kossi Wousou.
En 2022, pour un objectif de 21 millions d'arbres à planter, le pays n'a pu mettre en terre que 5 millions de plants. La campagne précédente n'a pas fait mieux. 3,3 millions de plants seulement ont été mis en terre contre 10 millions envisagés. Les raisons liées à ces contre-performances sont dues à des difficultés de mobilisation des acteurs et surtout de la disponibilité des terres. Cette dernière suscite bien de soucis aux autorités à cause des réticences des propriétaires terriens. Messan Abdou, de la Direction nationale des ressources forestières.
Effectivement, pour le moment, il y a des réticences parce que des gens se posent des questions, les gens ne sont pas sûrs. Ils pensent que quand ils vont mettre à disposition ces terres vont devenir des propriétés de l'État. Alors que ce n'est pas ça. L'État appuie juste les populations à faire le reboisement. Et les plantations qui sont faites appartiennent à ceux qui détiennent ces terres.
Les chefs traditionnels des cantons et villages du pays sont mis à contribution pour sensibiliser les populations sur la nécessité de mettre à disposition les terres pour le reboisement. Dans le village de Montmékatiwé, dans la préfecture de Vaud, le comité de développement de la localité semble avoir trouvé la bonne formule. Foli Yao Diwanu, responsable du CVD de Montmékatiwé.
Nous avons entrepris de discuter avec la population sur les possibilités de mise à disposition des terres et le statut de ces plantations. Et on est tombé d'accord sur le fait que durant 3 coupes, le CVD aura 1/3 des produits. Et après 3 coupes, le champ revient intégralement au propriétaire.
Pour Anani, agriculteur à Montmékatiwé, qui possède déjà 20 carrés de surface reboisée, l'expérience est concluante. Nous bénéficions des bienfaits des arbres qui fertilisent les sols pour nos cultures et nous utilisons déjà de petites branches comme bois de chauffe. Aussi, après les coupes, je vais pouvoir vendre le bois et avoir de l'argent. Mon ambition cette année est d'acquérir 1 hectare de terrain pour planter des arbres. Le regain d'attention et l'appropriation du reboisement dans cette région du Togo où l'approvisionnement en bois de chauffe est un calvaire pour les femmes, enchante Adjoavi Ameou, fabricante d'huile de palme.
Le projet de reboisement dans notre localité est une bonne chose. Nos problèmes d'approvisionnement en bois de chauffe pour la préparation de l'huile de palme seront de mauvais souvenirs.
Pour cette année 2023, l'ambition du gouvernement est de mettre en terre 14 millions de plants sur une superficie d'environ 11 000 hectares. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Au Sénégal, les espaces américains de l'ambassade des États-Unis ont rouvert leurs portes après une fermeture de plus de 2 ans à cause du Covid-19. Ces centres, qui sont des lieux d'apprentissage et de rassemblement en libre accès, sont mis en place pour favoriser les interactions entre les publics locaux et les États-Unis. Notre correspondant à Dakar, Sédina Abagué.
À Dakar, Louga, Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et bientôt à Kaolack, les espaces américains au Sénégal, communément appelés American Center, sont de nouveau accessibles au public. Centre d'échange, de formation, d'acquisition de compétences, de savoir-faire entre autres, l'American Center offre de nombreuses opportunités à ses membres, comme l'affirme Adja Aogin, qui fréquente les lieux depuis 2014.
Ce centre m'a apporté des clés rares, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-vivre. Ça m'a permis l'insertion dans le milieu professionnel avec des programmes bien actés, ces programmes bien accompagnés. Et franchement, avec des tuteurs qui nous ont suivis, qui sont tout au long du processus et qui nous ont permis d'avoir de saisir plusieurs opportunités, avoir pour les gens qui veulent voyager aux États-Unis pour des programmes d'études, des programmes d'excursion. Et dans le milieu professionnel aussi, ça nous a permis ce qu'on appelle le développement personnel.
Des capacités acquises grâce à des programmes divers et un encadrement spécifique, nous dit Khadija Sall, agent de l'American Center de Dakar.
Donc on a des cours d'anglais, niveau débutant, intermédiaire et avancé, pour lesquels il faut postuler, vu l'intérêt de ce programme-là, pour les jeunes. En dehors des programmes dédiés à l'anglais, nous avons également ce qu'on appelle les speakers programs, où on invite des gens qui travaillent au sein de cette ambassade-là ou des experts à l'externe à venir parler, entretenir nos membres sur différents sujets relatifs à leur expertise. On a également des programmes de STEM, donc tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie, art et mathématiques, avec l'impression 3D, la réalité virtuelle, etc.
Une palette variée qui attire également les stars du show business sénégalais. Le rappeur et acteur Adamo Diop, dit Admo, a récemment rejoint l'American Center.
Je suis en train de parfaire mon anglais en tant qu'entrepreneur déjà, parce que je fais de l'entrepreneuriat aussi. Et il y a beaucoup d'opportunités. Moi, j'aime trop le networking et chaque jour, je rencontre de nouvelles personnes. Ça m'aide aussi à développer mon côté business et tout. Donc, alhamdoulilah, il y a beaucoup d'opportunités en tout cas.
Des opportunités mises en place pour également développer les interactions positives entre le Sénégal et les États-Unis, d'après Mark Burrell de l'ambassade des États-Unis à Dakar.
Give them a pathway to both building their own capacity.
On leur offre la possibilité de renforcer leur propre capacité au Sénégal et entreprendre au-delà des frontières aux États-Unis pour apprendre des choses et de ramener ces connaissances au Sénégal pour aider le Sénégal à devenir plus fort, meilleur et plus démocratique.
Stronger and better and more democratic.
Au-delà de ces programmes, l'American Center offre également des activités pédagogiques et ludiques dans plus de 600 espaces américains répartis à travers plus de 140 pays, dont le Sénégal. Sédina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seludia, Lionel Gahima et Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute.